9h, 11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le club de l'été. C'est un club dans lequel on aime parler de théâtre, de littérature, de musique et de séries. Un club dans lequel on aime aussi partager nos coups de cœur culturels pour des lieux et des saveurs de France. Et d'ailleurs, nous avons 2 heures pour parler de culture et de gastronomie. Avec à mes côtés Sophie Massieux, experte tourisme et culture, et Sophie Muntz, experte gastronomie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour les amis.
Bonjour à tous, bonjour Lise.
J'adore dire experte.
Oui, Sophie. On a remarqué. Et d'ailleurs, Sophie et moi, on est ravis d'être qualifiés.
Exactement.
On ne savait pas avant de connaître Lise qu'on était
experts. Si on savait, évidemment qu'on savait.
Mais oui, vous avez monté en grade chaque jour, vous savez.
C'est ça.
Alors Sophie Massieux, vous nous emmenez dans le Gers aujourd'hui.
Oui, en Ténarèze.
Tiens donc. Je ne connaissais pas cet endroit. Vous allez nous le faire découvrir
voilà,
tout à l'heure.
Exactement.
Et Sophie Muntz, grâce à vous aujourd'hui, on va tous déculpabiliser.
On va sortir les pareos, quoique c'est la fin des vacances.
Ouais, on peut.
Ode, même, au bon gras.
Ah, génial.
Avec une experte en couennerie, je cite.
En quoi?
En couennerie.
En couennerie.
Une couennerie. Ah,
voilà, attention.
Mais le bon gras, hein.
Ça ne fait pas rêver comme ça, mais.
Nous aurons 2 heures pour parler de notre patrimoine culturel et gastronomique. Soyez les bienvenus dans ce club de l'été. Et n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 11h.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Lise Pressac.
Notre invité est journaliste après avoir officié en radio à Radio Soleil, RFO Tahiti, Radio France Bordeaux Gironde, France Inter, Europe 1 et à la télé sur Canal+, D8, France 3, Paris 1ère. Elle monte maintenant sur les planches, portrait sonore.
En tout cas, merci d'être là, Véronique Sanson.
On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé.
Europe 1, 14h, 15h.
Cette famille, Ariane Massenet et Béatrice Massenet.
Bon début d'après-midi sur Europe 1, ravie de vous retrouver comme chaque samedi à 14h pour cette famille. Béatrice, bonjour.
Salut Ariane.
Le sexe vient aussi de votre grand-père, votre père.
C'est une famille, c'est une génération. Ça continue avec mon fils parce que lui aussi, il a 5 ans et demi déjà.
Ça m'a beaucoup mieux chez les
six. Déjà, il est très attiré par les femmes.
Bonjour Ariane Massenet.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous êtes un peu ici chez vous, vous connaissez la maison. Vous êtes journaliste, animatrice et maintenant comédienne, on peut dire comédienne désormais. Vous jouez dans Comme des sœurs, pièce écrite et mise en scène par votre sœur Béatrice Massenet avec Alexandra Simon et Marie Parouti. Pièce qui reprend à partir du 12 septembre jusqu'au 31 décembre au théâtre La Seine Parisienne. C'est dans le 9e arrondissement de Paris. Nous allons évidemment parler de tout cela, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire tous les sons que vous avez pu entendre dans ce
portrait sonore? C'est assez amusant d'ailleurs d'entendre effectivement des choses qu'on a pu dire à droite et à gauche qui nous ressemblent, compilées comme ça. Et finalement, au début, on se dit « Oh là là, c'est n'importe quoi ». Enfin, parce que je me souviens avoir dit « Oui, ça, j'aime tel truc, etc. » Mais compilé finalement, en fait, je trouve que c'est un bon résumé de ce que je suis. Voilà.
C'est assez chouette en fait.
Ben ouais, je trouve ça assez chouette. C'est-à-dire passer par The Rose, qui est quand même une chanson sublime, et enchaîner avec. Voilà, c'est quand même juste.
Bette Midler, ouais.
La plus belle chanson, une des plus belles chansons du monde. Et puis enchaîner avec Ma philosophie, qui pour moi est la chanson que j'adore, mais bon, disons au second degré. Voilà. La chanson, celle-ci, vous allez la voir toute la journée.
Oui, c'est cadeau.
Toute la journée.
C'est cadeau. Il y a eu ABC aussi des Jackson 5, parce que ça, c'est la chanson. On est obligé de danser.
Ah, bah oui, c'est obligé. C'est la chanson qui met une patate d'enfer dès le début de la journée. Ouais.
Et il y a eu beaucoup de génériques de télé aussi. On a entendu le générique de Nulle part ailleurs, le générique du Grand Journal aussi. Alors, moi, ça m'a fait bizarre de revoir ce générique. Il y avait un orchestre. Enfin, c'était quelque chose, puisque à l'époque, vous étiez dans cette émission. Une émission qui était le passage obligé pour tout le monde et qui était surexposée. Ça a été comment cette période-là ?
Celle de Nulle part ailleurs ?
Ouais.
Celle de Nulle part ailleurs, c'était... Ça ressemblait tout compte fait un peu au Grand Journal. Sauf que oui. Pour le coup, moi, Nulle part ailleurs, j'étais vraiment derrière. J'étais assistante
et
le Grand Journal,
de
j'étais devant. Donc j'ai eu deux perceptions très différentes, mais finalement extrêmement complémentaires de ce que ça pouvait être. Oui, Nulle part ailleurs, c'était effectivement la folie. C'était cet orchestre, c'était des répétitions qui s'enchaînaient. Tout était fait le matin pour le soir, avec évidemment, ça fait toujours un peu vieux de dire ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire pas Internet, pas de oui, téléphone portable. Oui. Donc c'était juste des gros téléphones et on essayait de trouver des choses aberrantes que demandait De Cône pour l'émission du soir. Donc c'est. Moi je suis pas nostalgique, mais. En fait, si, je suis nostalgique.
Parce que tout le monde a l'habitude de dire que c'était les belles années de Canal, quoi. Tout le monde parle comme
de
si
Canal
c'était.
Et de la télé,
Sophie
même.
Et oui, de la télé en général.
C'était incroyable.
Oui, parce qu'aujourd'hui, la télé va un peu plus mal qu'elle n'a été. Et puis c'était aussi une époque où on pouvait tout se permettre, où il y avait de l'argent.
C'est
aujourd'hui, donc exactement, ça a changé. C'est-à-dire qu'on nous demandait des choses impossibles sans se soucier de savoir si ça allait coûter de l'argent ou pas.
Faisons-le.
Donc
quoi.
Tout était possible. C'était de la... En fait, moi, le souvenir que j'ai de Nulle part ailleurs, c'était de la création pure. Et c'était plein de gens bourrés de talent qui étaient à des bureaux concomitants les uns des autres. Et ça se passait ici, là, aujourd'hui, les locaux d'Europe 1. Mais c'était voilà, tous les gens. Il y avait Delarue juste à côté, il y avait De Cône juste à côté, il y avait Gilda juste à côté, il y avait Lescure. Enfin bref, il n'y avait que des gens bourrés de talent.
Et vous étiez assistante, ça consistait en quoi votre travail ? C'était de trouver aux débeautés les idées fusées, puis vous deviez trouver quelque chose qui corresponde. Quoi.
C'est exactement ça. J'ai le souvenir d'Antoine De Cône, qui était donc dans un petit bureau, et il ouvrait la porte, il me disait « Ariane, pour ce soir, il me faut un cochon ». Il fermait la porte. Et là, il était 13h, et il fallait que je trouve un cochon pour 19h. Donc
quel est le souvenir le plus mémorable de ces années Canal, avec De Cône, Gildas, le truc, vous dites, c'est dingue ce qu'on a fait là.
Oh, le souvenir le plus mémorable, il y en a eu tellement que c'est compliqué. Si je devais comme ça balayer sans réfléchir, c'est effectivement ce jour du cochon. Là, le cochon, j'ai eu très très peur parce que je me dis comment je vais trouver un cochon. Bon, je l'ai trouvé. Donc ça, c'était voilà cette folie-là. J'ai aussi la Cannes, c'était du grand n'importe quoi à Cannes. Mais c'était en fait, encore une fois, on riait beaucoup, on travaillait énormément.
Oui.
Ça, je pense que les gens ne se rendaient pas compte. Ils pensaient que De Cône arrivait une heure avant l'émission en disant « Bon, qui on a comme invité ? Je vais lui poser trois questions, je vais mettre une perruque et puis on va bien rire. » C'était énormément de travail, mais c'était extrêmement exaltant. C'était excitant, il se passait sans arrêt des choses. Et encore une fois, ce mélange de talents qui se retrouvaient tout concentrés pour faire une émission quotidienne. Et puis l'autre souvenir, qui est complètement dingue, mais puisque vous allez parler de gastronomie, il y avait sans arrêt des buffets dans les couloirs.
Tout le temps ?
Mais sans arrêt.
Mais
sans
génial.
Arrêt. On fêtait, tiens, je sais pas quoi.
On fête mardi, quoi. C'est
oui,
mardi, fait ton mardi.
Ouais, bah on fait ça, oui, d'accord. Ok, alors l'anniversaire de Canal, je vous en parle même pas. Il y avait sans arrêt des buffets.
Vous avez pris combien de kilos ?
C'est-à-dire que j'en avais déjà beaucoup, donc j'en ai pas pris plus que d'autres. Mais voilà, c'était quelque chose de. Oui, de fou, de très joyeux.
Des mesures qui n'existent plus quelque part.
Non, qui n'existent plus. Et qui, je pense, n'existera malheureusement plus.
Oui, et quelque part, c'est pas plus mal aussi hein, de ne pas avoir des buffets en permanence dans une radio.
C'est-à-dire, oui, passer un certain âge, c'est mieux de boire de l'eau.
Le Club de l'été va se poursuivre jusqu'à 11h avec notre invitée, la journaliste et comédienne Ariane Massenet. A tout de suite.
Le Club de l'été sur Europe 1. 9h, 11h. Lise Pressac.
Il est 9h22 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1. C'est la suite du Club de l'été avec notre invitée, la journaliste et comédienne Ariane Massenet. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Ariane Massenet, vous jouez dans Comme des sœurs, donc pièce écrite et mise en scène par votre sœur Béatrice Massenet. Pièce qui reprend le 12 septembre jusqu'au 31 décembre à la scène parisienne à Paris. C'est l'histoire de trois amies d'enfance, Isa, Lolo et Marion, qui se retrouvent chaque année pour un dîner de filles comme on en a toutes fait. Vous êtes Lolo, vous venez de Libourne pour retrouver vos amies parisiennes. Et comme dans tout dîner de filles, on parle de mecs, on parle aussi des enfants qu'on n'a pas pour la soirée. Est-ce que vous avez accepté d'être sur scène parce que c'est votre sœur et que vous pouvez rien lui refuser ? C'est comme ça que ça s'est passé ?
Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. On a ça fait maintenant peut-être une quinzaine d'années qu'on travaille régulièrement ensemble. C'est beaucoup plus facile de travailler avec sa sœur parce qu'on sait quand elle nous énerve, on sait quand on l'aime bien, on connaît ses défauts, on connaît ses qualités.
Et puis on se réconcilie vite si on se dispute.
Exactement. On se réconcilie très vite et puis on peut se dire les choses beaucoup plus facilement. En fait, on gagne. on gagne un temps fou. Je pense que moi, quand j'étais enfant, je voulais faire du théâtre. Mes parents, très très vite, ont mis un énorme mouchoir sur cette envie en disant « Non, tu ne gagneras pas ta vie en faisant ce métier-là. » Donc, c'était quelque chose que j'avais vraiment de présent, mais je pense que je n'aurais pas eu, sans doute, l'audace et le courage de le faire si ce n'était pas ma sœur qui avait écrit la pièce. Déjà, je connaissais Mo. Je connais sa façon de parler, sa dialectique, je connais tout ça. Donc, pour moi, ça me semblait plus facile. Puis je me disais, c'est marrant de faire une aventure de famille. Moi, j'ai toujours été assez fascinée par la famille.
Vous avez écrit sur ce sujet avec votre sœur. Bon, il y a eu l'émission ici sur Europe 1 dont on a entendu un extrait tout à l'heure.
Ouais.
C'est quelque chose qui
oui,
vous suit.
Oui, c'est quelque chose qui me suit. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours passionnée. J'aime bien savoir. En fait, je trouve toujours intéressant de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et donc là, voilà. Donc voilà, j'avais aucune raison de refuser cette proposition extrêmement excitante. Et puis cette nouvelle aventure, c'est une expérience extrêmement forte que j'ai adorée et que je suis extrêmement contente de continuer à la rentrée.
Alors, qu'est-ce que ça implique, justement, la comédie? C'est quelque chose de très rapide, c'est une mécanique bien huilée, parce que c'est une comédie, hein, il faut le dire, en termes de rythme, etc., quand on est habitué à celui de la télévision qui n'est pas du tout le même.
Eh bien, c'est pas tellement différent, tout compte fait. D'abord parce que c'est du théâtre et donc c'est du direct, si on peut dire. Donc, c'est pas si différent que ça. En télé, il y a beaucoup de rythme, en fait, sur les émissions sur lesquelles j'ai pu travailler, notamment la dernière, Le Grand Journal. On est obligé de respecter un rythme très précis, de faire des phrases courtes, aller vite, aller à l'essentiel. Et au théâtre, en tout cas dans la comédie qu'a écrite ma sœur Béatrice, c'est exactement ça. Il faut aller très vite. Donc, c'est la télévision, paradoxalement, m'a aidée pour monter sur scène. L'appréhension du public et puis ce rythme. Et puis après, c'est vrai que c'est un pied total. Pied total. C'est difficile à expliquer d'ailleurs, parce que c'est... Autant la télévision, il y a une excitation, il y a un stress, il y a souvent de la pression. Là, c'est un trac qui est extrêmement porteur et extrêmement excitant.
Et d'ailleurs, vous le dites, c'est le direct comme à la télé, mais il y a quand même quelque chose qui est dingue, c'est que vous avez le public en face de vous, ce que vous n'avez pas en télévision, avec un retour direct. Comment est-ce qu'on vit ça? Est-ce que c'est une appréhension en plus ou c'est justement, ça donne un stress qui est une excitation supplémentaire?
Ça donne du trac, mais c'est une excitation supplémentaire. D'abord parce qu'en télé, on s'impose aux gens. De moins en moins.
Ils peuvent zapper.
Non, mais en gros, ils peuvent zapper, mais on s'impose quand même aux gens. Là, les gens font la démarche de
venir vous voir.
Donc, c'est pas la même chose. On sent beaucoup de bienveillance chez les gens qui sont là. Après, les gens peuvent aimer ou pas aimer, c'est pas le problème. Mais en tout cas, ils sont là pour. Ils sont là pas forcément pour vous, enfin, en partie pour moi, mais ils sont là aussi pour voir une pièce. Donc, c'est porteur, c'est très très porteur, c'est très très excitant. Je comprends les comédiens qui ne veulent faire que du théâtre et peut-être moins de cinéma ou de télé, parce qu'il y a cette excitation, ce rapport avec le public, la salle n'est jamais la même. Moi, tout ça, j'ai découvert parce que je ne savais absolument pas. Je m'étais dit, oh là là, il va falloir que la télé, ça change tous les jours.
Et là, c'est une répétition, vous allez faire pendant des mois, vous l'avez déjà joué, et là, vous allez la rejouer pendant des mois, et pourtant, tous les jours, c'est différent.
Exactement, on va le refaire une soixantaine, on a fait 60 représentations, on va en faire encore 60, mais c'est toujours différent. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est votre humeur, l'humeur de vos camarades sur scène, l'humeur ce que vous renvoie la salle. C'est jamais la même chose. Et c'est ça qui est assez amusant. C'est surfer comme ça sur cette humeur, sur quelque chose d'impalpable. Et c'est très excitant.
Et vous n'avez pas pris de cours de théâtre spécialement comme vous vouliez en prendre. Vous êtes venu comme vous êtes.
Exactement. Alors moi, je voulais prendre des cours de théâtre parce que je pétochais quand même comme une malade. Mais ma sœur m'a dit non, moi je voudrais que tu restes comme tu es. Ce qui m'intéresse dans le fait que tu fasses cette pièce avec moi, c'est ton naturel. Et voilà.
Dans un instant, oui, je pense que ça fonctionne plutôt bien comme ça. Les spectateurs le diront. Dans un instant, Anne Massenet, on va partager avec vous vos coups de cœur culturels. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
On va lui casser la gueule.
On ne résout pas les problèmes par la violence. On n'est pas chez les sauvages.
Si, on va quand même rentrer dedans pour laisser de la place à Sophie.
Là où elle est violente, ce n'est que parce qu'elle est passionnée.
Lise Pressac.
Voilà, je me rappelle plus à quel moment j'ai dit ça.
En tout cas, les deux Sophies sont ravies, quelle que soit la Sophie.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été avec notre invitée, la journaliste et comédienne Ariane Massenet. Alors, quand on vous a demandé quels étaient vos coups de cœur, vous avez choisi deux livres, Les Inséparables de Dominique Missica, qui est publié au Seuil, et Idis de Robert Badinter, paru chez Fayard. Des histoires de famille et de sœurs aussi. Alors, Les Inséparables racontent l'histoire de Simone Veil et de ses sœurs, Madeleine et Denise, des survivantes, alors que leur mère, leur père et leur frère ne reviendront pas de déportation. génération. Quant à Idis de Robert Badinter, il le dit lui-même, c'est un livre hommage à sa grand-mère maternelle. C'est le récit d'une vie et le témoignage d'amour aussi d'un petit-fils, surtout. Même si Idis, sa grand-mère, fuit l'Empire tsariste pour se réfugier à Paris en 1912, elle y vit les plus belles années de sa vie avant d'être rattrapée par la guerre et par le nazisme. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces deux livres-là, Ariane Massenet ?
Alors c'est très marrant parce que je me suis rendu compte, ben là, quand je suis arrivée dans le studio, qu'effectivement, les deux avaient un lien avec la famille. Oui. Donc c'est quelque chose de profond chez moi. Il va falloir que j'aille voir mon psy.
Allongez-vous, Ariane.
C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce problème avec la famille ? Parce que c'est deux livres extrêmement... très différent, mais extrêmement touchant. Moi, j'ai été fascinée par la beauté du style de Robert Badinter. Ouais. Je suis allée voir sur Wikipédia, voir son âge. Il a 91 ans. Oui. Et un homme de 91 ans qui sort un livre, il avait 90 quand il l'a sorti. Il l'a sorti
l'année dernière, je crois, oui.
À Noël, un truc comme ça, enfin, à peu près à cette période-là. Un homme comme ça, dont on connaît évidemment le parcours, l'intelligence, la brillance et tout ce qu'on sait sur lui, sortir un bouquin sur sa grand-mère, très longtemps après, près d'un siècle après, j'ai trouvé ça très touchant. Et c'est pas non plus quelque chose de romanesque, c'est juste une tranche de vie pas facile pour cette femme, avec là, évidemment la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui suit, l'antisémitisme. Et voilà, c'est un bouquin qui m'a transportée et j'aime bien ces histoires de famille. En ce qui concerne Les Inséparables, alors ça c'est un livre qui m'a été offert par ma sœur.
Tiens donc.
Pour la première de la pièce, justement. Et on a eu la chance, Béatrice et moi, d'interviewer Simone Veil avec deux de ses fils pour le livre, justement, le livre qu'on faisait sur la famille. Et on a gardé un souvenir extrêmement fort, puissant et ému de cette rencontre. Et voilà, c'est cette histoire de trois sœurs, l'une qui meurt assez jeune dans des conditions compliquées. Voilà, c'est des livres qui me touchent, en fait. Qui me touche, c'est des tranches de vie. Moi, je trouve ça incroyable, les destins. Idis, justement, oui. La grand-mère de Badinter, a un destin, mais dingue. Elle est dans Bessarabie, qui est la Roumanie aujourd'hui, à la frontière de la Russie, et tout d'un coup, elle arrive à Paris.
Elle passait du tabac entre-temps. C'est...
Non, mais c'est des vies de dingue. Je me dis, mais ces gens, en 80 ans, oh là là, la richesse de leur vie. Quelquefois, je me dis, oh là là, mais ta vie, ma pauvre fille, elle n'est pas non plus très, très riche.
C'était
quoi.
Pas la même époque aussi. Voilà, on n'a pas vécu bien la Seconde Guerre mondiale.
Mais ces vies riches, je trouve, sont passionnantes.
Alors de mon côté, je voulais vous conseiller une exposition. On n'est pas du tout dans le même genre, mais on est à Bordeaux, donc à l'Institut culturel Bernard Magret. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs cet endroit, Ariane Massenet. C'est un institut qui n'est pas forcément très connu des Bordelais. Le street artiste 7 y présente son exposition 1, 2, 3 soleils jusqu'au 7 octobre. Et nous sommes en ligne avec Aurélien Desailloux, qui est directeur artistique et culturel de cet institut culturel. Bonjour Aurélien.
Bonjour Lisa.
Merci d'être en direct avec nous ce matin.
Merci à vous.
Alors racontez-nous comment s'est monté ce projet, comment vous avez été amené à monter cette exposition de street art au sein du château La Bottière, parce que c'est un château qui accueille l'Institut Bernard Magret.
En fait, l'Institut culturel, comme vous l'avez dit, est justement dans un château du XVIIIe siècle. Donc on aime vraiment, nous, travailler sur les contrastes entre street art et côté classique des bâtiments. Et voilà, on a cette volonté de devenir le fer de lance en France du street art. Et du coup, maintenant, on invite des grands artistes internationaux. Et là, on a eu la chance d'avoir Seth, donc Julien Malan, qui est un artiste de street art très très connu dans le monde et en France aussi. Et il a vraiment l'habitude, lui, de monter des grosses expositions, des très gros murs. Avec des guests, des invités très, très connus. Et en revanche, il n'avait jamais fait d'exposition en France, de solo show comme ça en France. Et on a eu de la chance de l'avoir pour sa première exposition. Donc c'est une exposition assez monumentale.
Et comment ça s'est passé justement, Aurélien ? Il est resté en résidence pendant 15 jours, c'est ça, pour réaliser aussi des œuvres in situ ?
Exactement, il est resté 15 jours avec nous, avec son équipe, et tout l'étage en fait, du château a été repeint. Donc il a repeint même les murs avec des œuvres qui sont complètement immersives, et tout en respectant évidemment les lieux. Donc c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au vrai souci, on a vraiment un accrochage assez classique de musée, et à l'étage, vous rentrez dans l'univers et dans la tête de Seth, en fait.
Oui, parce que vous connaissez peut-être pas forcément Seth, vous, auditeurs, ou même... mais en fait, on l'a souvent dans l'œil, c'est un artiste qui peint des enfants. Alors, il n'y a jamais de visage, justement, pour que chacun y mette un peu ce qu'il a envie d'y mettre, et d'y voir aussi son propre message. Il y a notamment aussi des références à l'actualité aussi, si on regarde un petit peu toutes ses œuvres.
Ben oui, exactement. Et c'est vrai que les auditeurs qui ont Instagram sont souvent tombés sur ces œuvres. Ce sont ces enfants qui sont dans des paysages, dans des vortex, un peu comme des arcs-en-ciel, où en effet, on ne voit pas leur regard. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu travailler sur plein de choses, sur de la vidéo, sur de l'installation, sur des fresques sur les murs. Enfin, voilà, c'est une exposition qui est assez riche, et ça, c'est grâce à cet artiste qui touche vraiment à tout.
Et il y a notamment une salle incroyable que moi j'aime beaucoup, où justement ce sont les photographies de son travail dans les rues de Shanghai, qui donc sont au milieu du château Labeautière. Vous connaissez pas cet institut culturel, Ariane Massenet?
Alors, le château Labeautière, ça me dit vaguement quelque chose, mais je ne savais pas que c'était un institut culturel. Honte à moi, mais je ne connaissais pas non plus cet artiste. Je suis en train de regarder justement sur Instagram.
SETH,
ouais, tout à fait.
Voilà, et pourtant vous accueillez en permanence des artistes dans ce lieu donc de Bordeaux.
Et oui, en fait, voilà, c'est ça. C'est une fondation d'art contemporain, donc on accueille une douzaine d'expositions différentes tout au long de l'année. Puis il y a des conférences, des concerts et des pièces de théâtre.
Ouais, et c'est donc voilà, moi quand je me suis déplacée à Bordeaux pour voir l'exposition, et c'est vrai que c'est pas forcément connu, mais c'est très très bien. Il faut vraiment aller dans cet institut Bernard Magret. L'exposition 1, 2, 3 soleils de Seth est à voir donc là-bas jusqu'au 7 octobre. Merci encore Aurélien Desailloux d'avoir été en direct avec nous ce matin.
Merci beaucoup Lise.
Merci, et à bientôt. Dans un instant, on va continuer de partager nos coups de cœur avec vous, Ariane Massenet. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Le club de l'été. Lise Pressac.
2 heures de direct tous les matins, de 9h à 11h avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Moon. C'est ça, le club de l'été sur Europe 1. Et ce matin, c'est la journaliste et comédienne Ariane Massenet qui nous accompagne. Quand on vous a demandé, Ariane, quelle était votre série préférée, vous nous avez notamment répondu ça.
I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake.
You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them.
Bon, alors c'est une bande-annonce en version originale. Vous avez reconnu Ariane Massenet, on parle de...
Oui, dans The Med's Tale, oui.
Alors on est dans un futur proche aux États-Unis, une dictature règne. Devant la baisse de fertilité, les femmes fertiles sont réduites à l'état d'esclaves sexuels pour servir de ventre à des couples infertiles. C'est très dur, mais moi je suis à fond dedans en ce moment aussi, c'est très très bien.
C'est dur, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont décroché autour de moi. Beaucoup de gens
j'ai
ont
beaucoup
décroché.
D'amis qui m'ont dit j'ai, en fait, le temps que j'ai de libre, j'ai pas envie de le passer devant une série un peu glauque.
Ouais, anxiogène, en tout cas.
C'est un peu ça. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît? Moi, j'arrive pas à décrocher, en fait.
Moi non plus, j'arrive pas à décrocher. D'abord parce que, d'un point de vue esthétique, moi, je trouve que c'est une série qui est extrêmement bien réalisée. C'est d'une beauté incroyable. On sait pas trop, effectivement, où on est quand on la regarde. On sait pas de quoi ça parle. On est un peu paumé. Est-ce que ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ça se passe dans le futur? Et on est complètement emporté parce que ça nous renvoie à des choses qui sont peut-être pas très rigolotes, mais qui pourraient aussi, on se dit, c'est ça qui est terrible, ça pourrait nous arriver un jour à nous, ce genre de problème où effectivement c'est une dictature qui s'installe très 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 branchée sur la religion. Et puis ces femmes qui ne sont plus fertiles de par la pollution, de par les pesticides, etc., etc. Bref, il y a
on est déjà un peu là-dedans. Enfin,
On est déjà un peu là-dedans. Donc il y a plein de choses qui font écho à ce qu'on est en train de vivre. Le monde va mal. Et en même temps, c'est très beau, c'est très bien. Encore une fois, c'est très bien réalisé et très très bien interprété. Puis ouais, on est. Je pense qu'on doit être vampirisé par ce truc-là. Je sais pas. Moi, j'arrive pas à m'en détacher.
Non, j'arrive pas non plus. Mais j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver. En fait, c'est terrible à elle et à toutes ces femmes. Bon, dans un autre style, vous avez aussi aimé ça.
Nous avons un nouveau souverain. Une femme, une jeune femme.
Je vais descendre de l'avion avec elle.
Non, monsieur. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la couronne a la préséance.
Vous ne pensez pas que j'aurais préféré grandir loin des projecteurs, loin de la cour, loin du regard de tous.
Soyez ferme, appuyez-vous uniquement sur la loi. Je sais que c'est Winston Churchill, mais n'oubliez pas qui vous êtes.
Je ne
vous
suis
êtes
personne.
La reine d'Angleterre.
Alors moi aussi c'est une série que j'ai adorée,
ah, Ariane Massenet. Génial, hein.
C'est parce que j'ai une passion pour Elisabeth II.
Bah voilà, c'est pareil.
c'est pour ça. Donc ça raconte l'accession au pouvoir de la reine Elisabeth, les années de règne qui suivent. Il y a les voyages, les grossesses, les relations avec son mari, les différents jeux de pouvoir aussi. Alors pour ceux qui ne l'ont pas suivi, les deux premières saisons sont à rattraper sur Netflix et la saison 3 arrive en novembre. Mais il y a un nouveau casting, Ariane. Hein. Je sais pas si
il
vous
paraît,
êtes au courant.
Ouais. Alors je sais pas, ça va me plaire ça.
Ouais, j'ai un peu peur aussi.
Moi. Ah moi j'aime pas le changement dans ce genre de truc. Pourquoi qu'ils nous changent des trucs alors qu'on s'habitue à des gens? Non, mais oui, alors moi ça va beaucoup m'agacer, je pense. Non, alors moi c'est mon petit côté point de vue image du monde. J'adore la famille d'Angleterre, je la trouve formidable.
Ah, une famille encore.
Et vous suivez les sagas avec Kate, Meghan et tout.
Ouais, là j'ai suivi parce que ça va pas bien pour Meghan.
Ah, non, ça va pas bien.
Non, c'est pas bien, ils étaient à Ibiza, alors bon, machin, la pollution carbone, dada, ensuite la France, tout ça. Non, c'est pas bien. Mais j'adore. Et j'adorerais, je crois, être en Angleterre juste pour suivre, lire que les papiers dans le Sun sur la famille d'Angleterre. J'adore ça.
Encore une passion pour une famille. C'est
marrant.
C'est ça fait rêver. Ça nous sort de notre quotidien, tout ça.
Exactement.
Et puis on se dit, ils sont là, mais ils ont quand même autant de problèmes que nous, finalement.
Ah bah ça, alors. Même plus. Moi, je les envie pas, finalement. Alors, de mon côté, dans un tout autre style, je voulais vous conseiller un film à voir dès demain au cinéma. C'est Thalasso de Guillaume Niclou. 5 ans après l'enlèvement de Michel Houellebecq, Guillaume Niclou retrouve donc le célèbre écrivain pour une nouvelle aventure totalement loufoque. À ses côtés, Gérard Depardieu. Tous deux dans leur propre rôle, ils se retrouvent dans une cure de thalasso à Cabourg. Alors pas de cigarettes, pas d'alcool, bon ça c'est en théorie. Un programme calme qui va être quelque peu perturbé par les anciens ravisseurs de Michel Houellebecq avec qui l'écrivain est toujours en contact. Bonjour Guillaume Niclou.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Avant de vous donner la parole, on va écouter un extrait de thalasso.
J'aurais dû me présenter aux élections finalement. Je pensais pas que Macron ça allait se casser la gueule aussi vite.
Toi, t'en as, Michel, des hémorroïdes ?
Ginette a quitté Dédé.
Quelle histoire ?
Il est dans tous ses états.
Ah, si elle le quitte et qu'elle va voir quelqu'un d'autre.
Mais elle a 80 ans.
Il n'y a pas d'âge pour être cocu, de toute façon. Tu pratiques encore de 69, toi ?
Oh, moins. J'aime pas trop, finalement. C'est vachement difficile, je trouve, d'agir et de ressentir en même temps.
Alors voici, c'est un court florilège des échanges entre Michel Houellebecq et Gérard Depardieu. Il vous manquait, Guillaume Niclou, Michel Houellebecq, pour que vous ayez envie de refaire un film ensemble ?
Oui.
Oui.
Profondément. Et puis, évidemment, le challenge de les rassembler tous les deux était également l'excitation supplémentaire. Voilà, de proposer aux spectateurs une aventure dans laquelle les deux allaient marquer leur rencontre et vivre des péripéties. Un alibi fictionnel dans lequel ils allaient réagir spontanément avec leurs propres émotions. Voilà, c'était ça en fait le grand pari.
Et Guillaume Niclou, vous aviez aussi surtout envie justement de renouer avec ce même procédé filmique, cette même spontanéité dans le tournage. Comment est-ce que vous procédez ? Vous tournez dans la continuité, c'est ça ?
Alors l'avantage en effet, c'est de pouvoir tourner dans la continuité, que tous les événements spontanés puissent nourrir éventuellement et l'intrigue et les rapports que les personnages nouent entre eux. Mais c'est en fait une infrastructure assez curieuse parce qu'elle mélange à la fois un document très écrit, puisque le film a eu l'aventure recette, donc un scénario, et puis il y a ensuite les informations que je donne à certains et pas à d'autres pour préserver justement cette spontanéité. Et puis il y a les informations que je donne pendant que je filme, c'est-à-dire que ensuite, tout le travail est de retirer ma voix pendant le tournage. Et puis, il y a ensuite les événements, les réactions très spontanées des uns et des autres qui participent à faire vivre cette fabrication de films très singulière pour qu'on puisse avoir tous les instants de spontanéité et de vérité qui puissent surgir en même temps que le film se construit. Voilà. Et donc, c'est tout cet ensemble qui permet à la comédie d'exister, mais d'une façon très singulière, avec ses accents de vérité et ses accidents heureux, où chacun a la possibilité de faire appel à ses propres réactions alors que nous sommes dans une fiction. En fait.
Alors, quelle est la part des accidents heureux par rapport à ce qui était écrit ? C'est une part importante ou vous avez une idée ?
Finalement, assez peu. Mais comme toutes les séries verbales, elles prennent une importance prépondérante parce qu'elles font partie de leur propre... personnalité. Et donc, du coup, on a le sentiment de retrouver une espèce de proximité immédiate avec ce que certains médias nous proposent de Michel et Gérard. C'est-à-dire que les médias, souvent, évidemment, mettent en, en apparence des saillies verbales très courtes, très denses, qui sont comme ça des espèces de coups de poing. Et là, dans le film, ils ont la possibilité à la fois d'expliquer avant et d'expliquer après pourquoi cette phrase-là peut apparaître. Donc c'est intéressant parce que du coup, on a une quelque chose de beaucoup plus ample concernant leur personnalité qui nous permet d'être finalement touchés, même si on frôle parfois la comédie excessive, le burlesque, enfin des situations où chacun a le loisir de montrer toute sa perfidie, mais en même temps toute son ironie, enfin toute sa déconnade, parce que le but c'est aussi ça, c'est de proposer aux spectateurs une version finalement beaucoup plus ample et nourrie de ce qu'on connaît de Gérard Michel. Et moi, c'est ce qui me fascine, c'est de tourner avec des vraies personnes et non pas des acteurs. C'est pour ça qu'ils ont un alibi, finalement, qui est indispensable et qui est très excitant pour eux. C'est qu'ils peuvent être encore plus eux-mêmes dans une fiction, puisqu'ils ont cet alibi, cette histoire qui leur permet de réagir avec leurs propres émotions.
Et c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, on a l'impression d'être privilégiés, en quelque sorte, en fait, et d'assister à des échanges entre eux, comme si on était un petit peu une petite souris à la table des grands. C'est un petit peu ça aussi que vous recherchiez. On se sent privilégiés, en fait.
Bah oui, c'est le but, c'est de proposer aux spectateurs la possibilité de vivre un voyage exceptionnel avec les deux monstres médiatisés qui appartiennent chacun à une catégorie différente, qui est celui de la littérature et du cinéma. Et la confrontation des deux, finalement, représente à la fois les deux versants opposés d'une même médaille. Et c'est toujours très, très excitant et très réjouissant de se dire que la symbiose des deux finit par fabriquer un personnage supplémentaire qui devient l'emblème, finalement, de tout le film. Ouais. Et c'est cette rencontre-là, oui, qui était pour moi très, très, très riche et très, très distrayante, parce que c'est assez rare, finalement, de pouvoir se plonger les deux pieds dedans dans un univers de comédie et d'essayer de, par moment, d'empiéter sur un territoire où l'émotion et où on peut livrer une facette plus inattendue, finalement, de ces deux personnages.
C'est vrai, et vous l'avez très bien dit, et c'est totalement réussi, c'est loufoque, c'est savoureux, vraiment. On vous recommande chaudement au Club de l'été d'aller voir le film Thalasso, donc c'est avec Michel Houellebecq et Gérard Depardieu. C'est à voir dès demain dans les salles de cinéma. Merci encore, Guillaume Nicloux, d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1.
Merci à vous.
Et donc un film Europe 1 à voir dès demain. Dans un instant, Ben H va nous rejoindre dans ce studio pour sa carte postale mythomane. On le retrouve après Donnez-moi les frangines sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, et si je m'aime pas, si je t'aime pas.
Si je m'aime pas, si je t'aime.
C'était les Frangines sur Europe 1. Dans un instant, Ben H nous rejoint pour sa carte postale mythomane. A tout de suite.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
On a tous un truc qui nous agace profondément et qu'on peut redevenir ma boule si on nous le fait.
Tu as raison.
On nous parle au solidaire. Ah, le mal qu'on peut nous faire.
Tais-toi ! Tais-toi !
Prendre ta douleur.
Tais-toi, maroufle, ou tu es perdu. Si tu veux survivre ta misérable vie, ne dis mot.
C'est de la torture.
Lise Pressac.
Vous l'aurez compris, je ne serais pas prise pour une comédie musicale.
Sinon, elle va bien. Hein.
Oui, sinon, je vais très bien. Je chante juste faux. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde. Il est 9h53 sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit avec notre invitée, la journaliste et comédienne Ariane Massenet. Je vous présente Ben H. Il est charmant. Il est charmant, mais un petit peu mythomane sur les bords. Il nous fait voyager depuis le début de l'été avec ses cartes postales. Où est-ce qu'on part aujourd'hui ?
Eh bien, Alice, depuis le début des vacances, on est parti aux quatre coins du pays. Hein, et à l'occasion de la venue d'Ariane Massenet, je réalise que j'ai jamais traité des Ferriades, l'Ovalie ou de Patrick Sébastien. Bref, du sud-ouest. En effet, notre invitée est née à Pau, hein, charmante commune des Pyrénées-Atlantiques. C'est très mignon, Pau. Principal avantage, c'est situé entre l'océan et la montagne. Principal inconvénient, François Bayrou. Pas de quoi se plaindre, hein, il existe bien pire. Je connais une ville. Il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de montagne. Et en plus, il y a Anne Hidalgo. Oh. Et sachez que je ne fais pas cette attaque gratuite contre le maire de Paris parce que je suis resté bloqué 1h15 ce matin dans les bouchons rue de Rivoli.
Ah bon, vous venez en voiture, Ben H?
Non, le pire, c'est que c'était un bouchon de trottinette électrique. Quand je vous dis que ça devient n'importe quoi à Paris, je déconne pas.
Bon, revenez donc dans le sud-ouest, vous y avez passé le week-end.
Trois jours pour être exact, j'ai partagé quelques coutumes locales les deux premiers jours. Conséquent, j'ai dû prendre un troisième jour pour digérer et me remettre sur pied. J'aurais pas dû faire le malin quand on m'avait dit Ben, l'Armagnac, ça, c'est pas une bonne idée de la boire avec la paille. Deux heures plus tard, je parlais à Mufasa qui était apparu dans le ciel de Biarritz. J'étais dans un état.
Oui, on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé.
Ça, Alice, c'est ce que je me suis dit au bout de 3-4 brasses quand j'ai voulu rejoindre Mufasa à la nage. Bref, à consommer avec modération, ça se déguste l'Armagnac.
Par l'Armagnac, vous avez donc dégusté des spécialités locales.
Et c'est dingue tout ce qu'on peut bouffer dans le sud-ouest, Lisa. Par contre, on n'est clairement pas sur de la soupe détox. Ah, hein. Tu peux arriver là-bas avec ton Wet Watchers, tu repartiras quand même avec la caravane à la place du cul. Tu comprends vite pourquoi c'est tous des rugbyman de 120 kilos là-bas. Quand t'es gamin, tu passes directement du sein de ta mère au jambon d'épaule. On voit assez vite que j'ai pas le physique pour les suivre sur la durée. Hein. Je fais 12 kilos. Mon régime alimentaire hebdomadaire là-bas, c'est un apéro, en fait. Hein. Par contre, ça s'est moins bien passé avec la fille qui m'accompagnait. C'est une végane.
Ah oui.
La pauvre, hein. Une végane dans le sud-ouest, c'est comme Éric Zemmour à la Gay Pride, hein. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi ? C'est pas facile d'être végane là-bas, elle avait le choix entre le foie gras, du confit de canard ou du cassoulet.
Ah oui.
Autant dire qu'elle a bouffé des cannelettes tout le week-end. Hein. Un soir, on est allé dans un petit resto local, elle a demandé au propriétaire s'ils avaient des trucs pour elle. Le propriétaire, Félicien, ancien demi de mêlée, 250 kilos au bas mot et éleveur de canard depuis 35 ans, quand il a entendu parler du boulgour et de la bête goji, il a failli se remettre au rugby sur ma copine.
Donc vous n'avez fait que manger, en fait.
Non, j'ai également pu constater que la plupart des autochtones dans le sud-ouest sont bronzés et beaux gosses. Hein. Oui. Moi, je suis arrivé blanc comme le casier de Balkany. C'est très énervant. Hein. Là-bas, t'as l'impression que tous les mecs, c'est des frérots de la Vega. À tout moment, sur la plage, ils peuvent sortir un ukulélé et chanter un truc débile sur des coquillages. Moi, au milieu d'eux, j'avais l'impression d'être le paquet premier prix gagnant qui fait pitié en bas des rayons. C'est gentil, Lise. Autant vous dire, Lise, si j'ai bien mangé, une fois de plus, je suis reparti tout seul. Pas comme ma pote vegan qui, à défaut de bouffer, est restée là-bas avec le sosie de Lisa Razou jeune. Allez, je vous laisse, j'ai mon cours de ukulélé, une séance d'UV à jeudi.
Merci Ben H. C'est comme ça Ariane Massenet, le sud-ouest.
Et oui, il n'a pas tout à fait tort.
Il n'a pas complètement tort.
Non, il n'a pas complètement tort. Et à chaque fois que j'y retourne, je me dis, oh non, c'est pas possible. Si, c'est possible.
Les demi de mêlée, le gras,
oui,
tout,
oui,
ça,
oui,
quoi.
Tout ça.
Quel bonheur.
On parlait de votre actualité au théâtre. Est-ce qu'on va vous revoir à la télévision, Ariane Massenet? Est-ce que c'est prévu ou pas?
C'est pas prévu là dans l'immédiat. D'abord parce qu'il y a le théâtre, ensuite il va y avoir une tournée. Ça prend tout ça beaucoup. Oui. Pas dans l'immédiat.
Pas dans l'immédiat.
Non, pas dans l'immédiat.
Vous avez d'autres projets pour d'autres écrans ou pour ailleurs?
Non, des projets, mais toujours des projets d'écriture, de séries, mais pas de projet d'antenne dans l'immédiat, non.
En tout cas, c'est rigolo parce qu'on, enfin c'est rigolo, on a reçu Catherine Jacob, c'était pour la première de cette émission, et vous apparaissez dans son livre, ce recueil qui s'appelle Ce qu'elles en disent, un livre qui va paraître le 4 septembre aux éditions Pygmalion, et vous évoquez vos mentors notamment et les relations aux hommes dans le milieu professionnel. Pour vous, il y a eu trois personnes importantes, on pense souvent à Marc-Olivier Fogel, on pense à Antoine Decaune, mais il y a aussi, et je trouvais ça assez rigolo, j'ai perdu son nom, mais la personne qui vous avait fait, Jeff Amerio, c'est ça qui vous a donné votre chance à Radio Soleil à Tahiti. J'ai l'impression que vous êtes fidèle.
Oui. Oui, je suis très fidèle parce que ces métiers-là sont pas forcément
faciles.
Et lorsqu'on a quelqu'un comme ça qui vous aide, un vrai mentor, vous l'oubliez jamais. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de le retrouver et j'ai jamais réussi à le retrouver. Enfin, quand j'ai réussi à retrouver sa fille, notamment à Tahiti, enfin, qui elle habitait en France, malheureusement, il était décédé. Non, je suis très très fidèle. Moi, je garde beaucoup d'attachement aux gens qui m'ont aidé, qui m'ont construit, parce que ça devient une part de moi-même.
C'est vrai. Et au cours des années, on en croise beaucoup de ces gens importants. Merci Ben H, je ne vous ai pas remercié, mais on vous retrouve jeudi.
À jeudi, ouais.
Restez avec nous, le Club de l'été se poursuit jusqu'à 11h. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le Club de l'été. Lise Pressac.
Bienvenue dans la deuxième heure du Club de l'été sur Europe 1. Nous sommes toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager nos coups de cœur culturels et gastronomiques. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter, le hashtag c'est Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité Ariane Massenet. Sophie Massieu, grâce à vous, nous allons faire un tour dans une région chère à notre invité, le Gers.
Absolument, on ira au nord du département, dans une région méconnue du Gers, partie méconnue du Gers.
Et alors Sophie Mousse, qu'est-ce qu'on mange ?
Du politiquement incorrect, Ariane va aimer ça.
Ah oui.
On va parler du gras. Le bon gras.
Bah oui.
Miam, 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 miam. Et puis, je vais vous apprendre à faire vos pâtes à la maison.
Ah, très bien. Et le gras, c'est la vie, on le rappelle.
9h, 11h. Le Club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Ariane Massenet, je vous propose un petit quiz musical spécial ce matin. Il n'est question que de sœurs. On va voir si vous reconnaissez les artistes qui vont suivre. Premier extrait.
Oui, bah oui.
Oui,
bah oui.
Dites-moi.
Bah oui.
Là, on dit oui pour gagner du temps.
Non, mais si, évidemment.
The Pointer Sisters, voilà. Évidemment, voilà.
Enfin.
June et Bonnie Pointer au début, rejointes par Anita puis Ruth. Voilà, vous aurez tous les prénoms des sœurs célèbres dans la musique. Deuxième extrait. Vous connaissez pas? C'est IBI, des sœurs jumelles, elles sont assez incroyables, franco-cubaines, elles chantent divinement bien, le titre s'appelle River.
Ah, génial,
elles s'appellent Lisa Kende et Naomi, c'est très très
d'accord.
Bien, je vous recommande. Troisième extrait, plus ancien.
Bah oui, évidemment.
Ace of Base.
Là, voilà.
Alors, vous vous rappelez pas du nom du groupe, mais vous rappelez évidemment des membres du groupe. Il y avait Ulf Ekberg et donc des frères et sœurs Jonas
Ulf,
Berggren,
je me souviens, Ulf.
Voilà,
sacré Ulf.
Malin Berggren et Jenny Berggren. Voilà, évidemment, on ne les a pas oubliés.
Évidemment.
Sur le quatrième,
si, un peu quand même.
Sur le quatrième extrait, vous allez peut-être vous rappeler.
Ouais. Oui, d'accord.
C'est des sœurs que vous connaissez. Que vous avez reçu. Oui, tout
ah,
à fait.
Oui, oui, oui.
Katia et Marielle Labec au piano que vous aviez reçu
dans cette
ici,
famille,
sur
absolument.
Sur cette
ouais.
antenne.
Ouais.
Et un dernier extrait pour la route.
Formidable.
Bon, là, j'ai un peu triché, c'est Sister Act.
Oui, c'est mais ça,
bon,
ça n'a rien à voir.
C'est rien à voir, c'est parce que c'est un de mes films préférés.
Oh,
voilà,
j'adore.
Donc, je me suis juste fait plaisir. Vous écoutez quoi comme musique, Ariane Massenet, à part donc les Jackson,
Alors,
Five.
Moi, j'ai un éventail extrêmement large, mais un petit peu d'ailleurs dans le portrait musical que vous avez fait au début, avec des extraits de différentes choses. Je suis très éclectique, je suis fan absolue de Samson Berger-Gall.
Oui.
Voilà, ça c'est la base. Et ensuite, j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup le blues, j'aime beaucoup la musique classique. Je suis moins fan de la soupasse.
Oui.
Même si j'ai toujours dans mon iPhone, dans mon.
Il faut toujours un peu de soupasse.
J'ai toujours de la bonne soupasse qui me met complètement en joie, qui peut me rendre hystérique.
Il en faut toujours.
Je ne vais pas être méchante du tout avec ma philosophie, parce que j'adore vraiment cette chanson.
Moi aussi, mais...
Mais bon, voilà. Voilà, donc je suis très, très éclectique en goûts musicaux. Ah, ça, j'adore.
Et Véronique Sanson, que vous avez reçue sur Paris Première, comment vous étiez stressée à l'idée de la rencontrer? Parce que c'est toujours difficile de recevoir des gens qu'on aime.
Ouais. Je l'ai interviewée aussi ici à Europe, avec sa sœur Violaine. La première fois, oui, on est toujours stressée, puis après, on finit par mieux connaître. Mais oui, on n'est jamais très bon quand on aime, quand on interviewe les gens qu'on aime. On n'est jamais très bon parce que, voilà, on les connaît tellement bien qu'on a du mal. Mais moi, je ne la connaissais pas personnellement, mais je connaissais bien son œuvre. C'était super. J'ai gardé un très bon souvenir. Moi, j'aimais beaucoup cette émission sur Paris Première.
Oui.
Je recevais les gens dans un hôtel au Crillon. Je trouvais ça super.
Ouais, c'était chouette. Et puis, c'était des intervieweurs mystères. C'est ça, ils venaient, mais ils ne savaient pas par qui ils allaient être
exactement,
interviewés.
Exactement.
C'était votre sœur qui avait eu l'idée de cette émission?
C'est ma sœur qui avait eu l'idée. C'est la première fois qu'on a travaillé ensemble là-dessus. Moi, j'ai quitté en fait l'émission de Marco Fogiel au NPP pour faire ensuite cette émission sur Paris Première.
Alors dans un instant, Ariane Massenet, on va dans un territoire que vous connaissez encore mieux que toutes les chansons que je viens de vous passer.
Ouais.
C'est le Gers. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Nous sommes toujours en direct sur Europe 1, il est 10h12 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invitée, la journaliste et comédienne Ariane Massenet, et mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Mouns. Alors avant d'aller faire un tour dans le Gers, Sophie Massieu, une drôle d'exposition parisienne pour ouvrir notre journal de la culture.
Eh oui, on en a tous un et on ne le regarde même pas, alors que pourtant cela peut être, ou en tout cas cela fut, un important accessoire de mode. Je veux parler, Lise, du porte-monnaie.
Ah, d'accord.
Eh bien, la Monnaie de Paris en a regroupé pas moins de 330 qui nous permettent de voir l'évolution de cet objet de l'Antiquité à nos jours. Il y en a en tissu, en cuir, en ivoire. Oups, c'est
en
mal.
En ivoire, hein. Oui.
Et en écaille, il y en a des ronds, des rectangulaires, des ovales. Enfin, vraiment, voilà. Vous saviez, Lise, vous, que c'était un objet aussi important en matière d'élégance féminine que, je ne sais pas, moi, le carnet de bal à une
mais
époque
pas du tout.
Eh bien, moi non plus. Pour ne rien vous cacher, je ne savais pas avant de voir des choses sur cette exposition, de lire des choses sur cette exposition. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cet objet du quotidien, qui renferme des trésors, hein, pas seulement en argent sonnant et trébuchant, mais aussi donc en élégance et en témoignage de l'atmosphère d'une époque, eh bien, vous pouvez aller à la Monnaie de Paris, et c'est disponible jusqu'au 3 novembre. La Monnaie de Paris, c'est au 11 quai Conti, dans le 6e. C'est ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 19h. Et sur demande, des visites guidées peuvent être organisées le mercredi 25 septembre. Ça peut être sympa comme activité de rentrée. Le jour des enfants, donc, vous pourrez aller fabriquer avec votre petit ou votre petite un porte-monnaie dans un atelier prévu à cet effet de 14h30 à 16h.
Oh, c'est bien. Après, le problème, c'est qu'il faudra le remplir.
Et maintenant, oui.
Et maintenant un festival de cinéma, mais pas à Cannes.
Eh bien oui, c'est peut-être parce qu'on n'est pas en mai, hein, finalement.
Oui, finalement.
Voilà. Alors, en août, et ça commence aujourd'hui, c'est au Festival du film francophone d'Angoulême que vous pouvez vous rendre, ma chère Lise. Il s'y tient jusqu'au 25 août. Alors bon, comme tout bon festival de cinéma, hein, il verra défiler de très nombreuses stars, de grands corps malades que j'adore, mais qui s'en fichent.
À Elsa Zilberstein, mais non, ils s'en fichent pas.
En passant par Danny Boone. Il est présidé par la comédienne Jacqueline Brisset. Et parmi les 10 films en compétition, on compte notamment le dernier long métrage de Cédric Clapiche intitulé « Deux mois ». Alors deux mois, l'ego, hein, vous et moi, pas les mois de l'année, Lise.
Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre ?
Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro ?
Une dépression ?
Peut-être.
Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment, vraiment, mais rien à dire. Il a pas parlé pendant une heure. Ah, si, à un moment donné, il m'a dit...
J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi.
L'angoisse ?
L'angoisse, effectivement.
Le film raconte le mal-être de deux trentenaires à un homme, une femme qui, bien sûr, on l'a compris, rien que dans cet extrait, finiront par se rencontrer. Alors, pour découvrir cette partition entre Anna Girardot et François Civil, ou que vous soyez hein, sur votre grand écran préféré, il vous faut attendre le 11 septembre, jour de la sortie.
Et puis, il y a un casting incroyable. Il y a aussi Pierre Niney, Camille Cotin, Simon Abkarian. Enfin, vraiment, moi, je pense que je vais aller le voir. Et pour terminer votre journal de la culture, une information qui pourrait intéresser nos auditeurs fans d'histoire contemporaine.
Oui, et de bande dessinée, parce que auteurs et illustrateurs s'emparent des sujets qui font notre actualité. On commence par une BD qui vient de sortir sur le continent après avoir été mise en librairie en Corse. Il s'agit du premier tome d'un ouvrage qui en comptera deux et qui raconte l'histoire d'Edmond Simeoni. Cet homme, il est mort en décembre dernier. Il était l'un des pères du nationalisme corse. Pour le rédiger, notre confrère, le journaliste
Frédéric Bertocchini,
voilà, pardon, j'allais l'appeler Cédric, je savais que c'était pas ça. Frédéric Bertocchini, pardonnez-moi. Il l'a rencontré pendant deux ans, de 2014 à 2016. Et il a aussi recueilli le témoignage de personnes qui l'ont bien connu et qui ont pu lui parler de sa vision, de la Corse, de ses engagements, etc. Alors, l'auteur explique avoir voulu, avec cet ouvrage, porter à la connaissance du plus grand nombre la culture et l'histoire corse, qu'on maîtrise pas forcément.
Non, c'est sûr.
L'album s'intitule « De la justice ». Michel Espinoza et Nouria Sayago, que je ne connaissais pas, ont réalisé les dessins et c'est publié aux éditions DCL dans la collection « Les grands personnages ». Le deuxième tome, il est attendu pour la fin de l'année et il s'intitulera « Pour la liberté ». Alors, un autre reportage sous forme de BD, c'est celui de deux auteurs italiens, Marco Rizzo et Lelio Bonacorso.
Quel accent !
Ils sont montés à bord de l'Aquarius. Vous savez, Lise, l'Aquarius, c'est ce bateau hein, qui avait été affrété par SOS Méditerranée, qui a sauvé des milliers de migrants avant que l'Italie ne lui retire son pavillon. Déjà à l'époque, on en parlait beaucoup. Et qu'aucun port, ni de France, soit dit en passant, ni d'ailleurs, ne lui permettait d'accoster non plus. Alors, ces deux auteurs nous racontent ce qu'ils ont vu et entendu à bord, des témoignages forts hein, de personnes exilées, recueillies auprès d'elles. Et puis, Sachez que donc, À bord de l'Aquarius est paru aux éditions Futuropolis. C'était en janvier dernier, mais inutile de vous dire. Et le journal de Sophie Tussaud l'a prouvé combien c'est encore d'actualité.
Oui, très très bonne maison d'édition au passage.
Oui.
Ariane Massenet, vous avez le temps, vous, de profiter, que ce soit du cinéma, des programmations estivales, etc. Vous allez traîner dans vos guêtres dans les festivals de musique.
L'été
ou... Oui.
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Vous, c'est doigt de pied en éventail, on se repose.
Exactement.
Ouais, c'est une bonne philosophie
aussi.
Oui,
non, aussi, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout.
On en revient à Melbourne, voilà, c'est la philosophie.
C'est
vie.
Cela.
Avant de prendre la route pour le Gers, là, je pense que vous allez être contente d'y passer un petit moment. Je propose d'écouter Mark Ronson et Miley Cyrus et Nothing Breaks Like a Heart sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
Silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. There's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee, and I hold it, we both know it, that nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark, and this broken
c'était Mark Ronson et Miley Cyrus sur Europe 1. Dans un instant, nous irons faire un tour dans le Gers. A tout de suite.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Il est 10h21, c'est la suite du club de l'été sur Europe 1 avec Sophie Massieu et Sophie Muntz. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée, la journaliste et comédienne Ariane Massenet. Nous partons dans le Gers. Pourquoi vous êtes attachée à cette région, Ariane?
Si je vous dis la famille, ça va être ridicule.
Ah non, pas
mais
du
c'est
tout.
Ça, en
bah
fait.
Oui,
si,
bah
non,
si, c'est, bah c'est une bonne
c'est
raison.
Ça, c'est ça, c'est une propriété. En fait, j'y suis attachée parce que j'y ai passé toute mon enfance et que je continue à y aller
régulièrement,
tout le temps. Oh oui, je passais tout le mois de d'août là-bas, dans le Gers, parce que ma famille avait une propriété familiale qui est dans la famille depuis très longtemps. On se retrouvait avec tous nos cousins. Et donc j'ai des souvenirs absolument magiques de cette période-là. Et je continue, oui, à Pâques, j'ai retrouvé tous mes cousins qui ont pris de l'âge comme moi. Mais c'est toujours aussi sympa.
Donc, vous êtes nombreux?
Ah, on est très nombreux.
Ça ressemble à quoi un repas chez les
Massenet? C'est très fatigant. C'est très, très fatigant. En général, on ne dépasse pas 3 jours parce que sinon, après, on a la tête comme un compteur. Parce qu'on est nombreux. Mais c'est très sympa parce qu'on mange bien et que c'est magnifique. C'est une région qui est absolument splendide.
Alors on va y faire escale et on va aller en Ténarez. Mais alors où est-ce donc, Sophie?
Eh bien, c'est au nord du Gers, au cœur de la Gascogne. Nous en parlions vendredi de la Gascogne, mais on était en Gironde au pied de la dune du Pilat, si vous vous souvenez.
Oui.
Cette fois-ci, nous nous perdons donc en Ténarez avec délices au milieu de plusieurs villages classés parmi les plus beaux de France et aussi au cœur des vignes d'Armagnac. Alors, pour éviter qu'on se perde complètement,
ah oui,
je vous connais, Lise. On va retrouver Virginie Amira, sur qui on peut compter, puisqu'elle est médiatrice culturelle à l'Office du tourisme de Condom. Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, peut-être déjà, on va commencer par le commencement. Faites-nous visiter un petit peu votre ville, votre village de Condom. Qu'est-ce qu'il y a d'incontournable dans cette ancienne cité épiscopale ?
Donc Condom, oui, est au cœur de la Ténarèse. C'est une ancienne cité épiscopale, donc avec une majestueuse cathédrale du début du XVIe siècle, de style gothique flamboyant, avec également un cloître qui est accolé. Nous avons également de magnifiques hôtels particuliers qui ont été érigés à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque où la ville s'est agrandie et sortie en dehors de son ancienne ceinture de remparts. Donc nous avons un patrimoine exceptionnel, nous avons également, Condom était également une capitale, une plaque tournante dans le commerce de l'Armagnac.
Et oui,
grâce
on y revient.
À la baïse. Voilà, forcément, on y revient toujours. Donc ça fait partie intégrante de nos richesses à découvrir. Ensuite, par rapport au niveau festif, Condom n'est pas du tout en reste.
Ah.
Nous avons un très important festival qui se déroule depuis, là ça va faire la 48e édition en 2020, qui se déroule donc le deuxième week-end de mai, pendant 3 jours, le grand festival européen de bandas y peñas.
Qu'est-ce que c'est les bandas y peñas?
Donc en fait, c'est un grand concours durant lequel nous avons des milliers de musiciens en formation de bandas qui viennent s'affronter durant 3 jours. Donc ce sont des formations qui comprennent des cuivres et des percussions.
Mm-hmm.
Donc tout ceci est très festif et pendant ces 3 jours, la cité épiscopale vit au rythme des bandas, au rythme de ses cuivres, de ses percussions. Voilà.
Ah bah il faut venir en mai prochain, au plus tard.
Oui,
alors.
Oui, voilà, n'hésitez pas.
On va venir plusieurs fois donc.
Exactement. Alors en Ténarèse, on dit bien en Ténarèse, on dit pas dans là. On avait un doute tout à l'heure.
Oui, en Ténarèse.
En Ténarèse.
Oui, bah, la Ténarèse, en fait, ça renvoie à plusieurs choses. À la base, c'était une route qui remonte très très loin dans le temps, la période de la préhistoire, et qui permettait de rallier les Pyrénées à Bordeaux. Sans avoir ni à traverser de bateau, ni à traverser de pont, pardon, ni à prendre de bateau. Et aussi la Ténarèse, j'en reviens toujours à notre fameuse Armagnac.
Ah, on y revient toujours à l'Armagnac.
Hein. Bon, évidemment avec modération. Hein.
Toujours.
Voilà, toujours. Donc c'est
ou
l'un
pas.
Des trois, ou pas, oui. Oh, avec modération quand même. C'est un bon produit, ça se déguste
avec sagesse.
Voilà, c'est
bien
ça.
Sûr.
Donc, c'est l'un également des trois terroirs, l'une des trois zones d'appellation de production de l'Armagnac. Et on est en plein cœur, en fait.
C'est ça.
Là.
Vous avez parlé de la Baïse, hein, donc une rivière de la région. Donc, il y a aussi, j'imagine, de chouettes chemins de randonnée si on n'a pas trop abusé de l'Armagnac.
Oui, bien sûr. Alors, la Baïse, déjà, pour les personnes qui souhaiteraient la découvrir sur une journée, voire plus, c'est la seule rivière navigable du Gers. Donc
on peut prendre un kayak ou quelque chose comme ça.
Oui, tout à fait.
Ah, on y revient au kayak.
Canoë-kayak, également location de petits bateaux sans permis, ici au port de Condom, avec la compagnie Gascogne Navigation, ou croisière sur le croisière découverte à bord du D'Artagnan.
Ah, bah oui, forcément, c'était un local
forcément.
De l'étape.
Voilà, là pour, aussi.
Pour ceux qui aiment bien les visites culturelles, il y a pas mal de bastides, hein, notamment à Montréal-sur-Gère.
C'est vrai. Donc, en fait, on a de la chance. On a, dans notre secteur, on a 3 villages classés parmi les plus beaux villages de France. Et ce sont vraiment des villages exceptionnels. Donc, nous avons en effet une bastide, la bastide de Montréal-du-Gers, qui est vraiment caractéristique de ces villes neuves du Moyen-Âge, avec un tracé géométrique bien, bien pensé. Nous avons également le très joli petit village de Fourcès, qui se déploie autour d'une place circulaire. Donc là, c'est vraiment propre à la flânerie, à la déambulation, avec cette place bordée d'arcades, de maisons à colombages. Enfin, c'est une petite merveille. Et également, Fourcès, ne pas hésiter à y aller le dernier week-end d'avril. Il y a un grand marché aux fleurs. Donc,
ah ben, tout se passe au printemps,
donc on vient
décidément.
En avril, on vient en mai, on vient
en avril
maintenant.
Et on reste. Voilà.
Et on boit de l'Armagnac.
Et on boit de l'Armagnac.
Et alors, si Virginie Amira, si je vous demande votre coup de cœur à vous, dans
la
cette
Rossingle.
Région. D'accord. Et
la
pourquoi
Rossingle.
Qu'est-ce qui vous plaît tellement?
Alors, la Rossingle, donc, c'est une cité médiévale de la seconde moitié du XIIIe siècle. Et elle est extrêmement bien préservée. C'est l'une des plus petites de France. Et quand on vient à la Rossingle, avec juste un peu d'imagination, on peut se dire qu'on a fait un grand voyage dans le temps et qu'on est au Moyen-Âge. Donc, on a de fiers remparts, tout un système défensif à voir absolument.
Bon, bah merci beaucoup, vous nous avez vraiment donné envie de venir dans la région. Merci beaucoup Virginie Amira. On vous retrouve donc en avril, en mai et tout le temps.
Voilà.
On va tous en Ténarès. Et qu'est-ce qu'on mange ? Ah tiens, qu'est-ce qu'on mange en Ténarès de meilleur pour vous ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut manger en Ténarès ? Bah, évidemment, l'incontournable canard. Hein.
Ouais.
En magret, en confit. Hein. Hein, le confit, c'est pas gras, hein, je vous le rappelle.
Non, on est d'accord. On est tous voilà. D'accord.
Ça nous fait une habile transition avec la chronique de Sophie sur le gras.
Et voilà, en dessert, une bonne croustade.
Parfait. Mmh. Merci beaucoup.
On arrive. On arrive.
Merci Virginie Amira.
Merci Virginie Amira d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes médiatrice culturelle de l'Office du tourisme de Condon. Dans un instant, justement, ça tombe bien, Sophie Moon va nous parler de gras et ce sera l'épisode 2 de la nouvelle série de la semaine consacrée aux pâtes. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
Je vous propose d'écouter Billie Eilish avec Bad Guys sur Europe 1.
C'est nul ! Zéro !
Je suis désolée, je sais que tu voulais pas la mettre, mais tu sais, on aurait carrément dû faire un putsch hein, et mettre autre chose.
Ah mais en fait, moi je connaissais que la partie punchy du truc, je pensais pas qu'il y avait des morceaux super dark comme ça dedans, quoi. On a envie de... Non ? De passer par la fenêtre. Moi, je cherchais une fenêtre, là.
Je t'avais prévenu, hein.
Lise Pressac.
Mais non, ouais, je suis désolée, c'est pas mon truc, mais Julia Cotreau qui travaille avec nous à la programmation aime beaucoup. Donc, vous voyez, il y a des moments voilà, dans une chanson. C'est la suite du club de l'été. En direct avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Moon. Ce matin, nous sommes en compagnie de la journaliste et comédienne Ariane Massenet. À chaque fois, je pose cette question tous les jours et je connais déjà la réponse. Est-ce que vous êtes gourmande ?
Non.
Ah voilà.
Vous êtes mais c'est bien. Non, mais c'est faux. Non, je suis très gourmande, très gourmande. Oui, oui. Non, ça, je suis un peu. Alors, oui, je suis un petit peu obsédée sur la bouffe.
Salé, sucré, les deux, tout.
Non, le sucré, je m'en fiche un peu. Ah, tant mieux, parce que sinon, alors là, ce serait épouvantable.
Vaut mieux en avoir qu'un que les deux, parce que ça devient.
Oui, exactement. Après. Mais le gras, oui, j'aime beaucoup le gras.
Qu'est-ce que ça tombe bien, Sophie Moons.
Oh. Oh. Je fantasme là.
Bon,
qui digère, les amis ?
Dit gras donc.
Dit gras.
Oui.
Alors on pense au magret, on pense à ces petites pommes de terre sautées à la graisse d'oie.
Oui.
On pense au gras. Alors c'est très politiquement incorrect de le dire, mais le gras.
C'est
notre mantra, c'est la vie.
Évidemment.
Et ce n'est certainement pas mon invité qui va nous contredire.
Non.
Ah, je ne sais pas comment elle doit le prendre.
La papesse du gras, la papesse des cochonneries de la Queen, Blandine Villiers. Bonjour Blandine.
Bonjour.
Bonjour.
Alias Greta Garbure, vous êtes l'autrice de ce blog gourmand éponyme, mais aussi de cet ouvrage formidable, 99 plus une bonne raison de manger du gras, publié chez Artemis. Je montre ça et je l'offre déjà
sur europe1.fr.
Elle va s'en délecter.
Ah, je suis trop contente.
Dites-moi, Blandine, à l'heure où la communauté scientifique nous inonde de recommandations pour diminuer notre consommation de gras, il faut quand même une sacrée dose d'audace pour nous pousser à cette consommation de gras.
Écoutez, non, parce que toute la communauté scientifique n'est pas d'accord, en fait. Mmh. Elle est d'accord sur un point, c'est que le gras, c'est utile à la santé et que sans gras, il n'y a pas de vie du tout.
C'est ça. Donc, hein, le corps a besoin de lipides, on est bien d'accord.
Voilà. Okay. Éliminer le gras, c'est altérer ses fonctions vitales, donc sa santé. Et des diététiciens comme Jean-Marie Bourg conseillent vivement d'en manger et trouvent ridicule tous ces régimes qui font les... qui souhaite éliminer le gras.
C'est ça. Mais encore faut-il s'entendre, Blandine, sur le gras dont on parle. Il y a évidemment toutes ces mauvaises graisses inutiles, les graisses trans, les hydrogénées qui sont totalement omniprésentes dans notre alimentation. Elles sont tapies dans l'ombre, mais elles sont là. Et puis il y a le gras qui va vous relever le plus simple des repas. Ce gras-là, il donne de la substance dans nos assiettes ?
Écoutez, effectivement, le problème, ce n'est pas le gras, mais le mauvais gras.
Oui.
Et donc, dans nos assiettes, il faut cuisiner maison et mettre du bon gras, d'animaux bien élevés, du vrai beurre, de baratte,
au lait cru.
De la graisse d'oie, de l'huile d'olive. Et même les gras de viande, vous savez, une viande persillée est bien meilleure
évidemment.
Qu'une viande maigre. Le gras du jambon, le gras du cochon, la peau croustillante du poulet ou du magret, comme vous le citiez, tout ça, c'est très très bon pour la santé et c'est bon au goût parce que le gras a en plus la particularité de piéger les saveurs, de piéger
ça.
Le goût.
Oui, ça fonctionne.
C'est donc grâce à lui que le goût peut se développer. Il n'y a pas que dans l'alimentation, d'ailleurs, c'est pareil aussi dans les cosmétiques. Les parfums se font à base de gras également pour les mêmes raisons.
Oui, c'est ça. Le gras, ça fonctionne comme des petits wagons du goût. Ils transmettent le goût et donc il est évidemment essentiel. Alors, on pourrait parler de 50 nuances de gras, Blandine ?
Mais absolument. mais vous savez, même dans le gras, on a une idée un peu péjorative, mais c'est une dictature qui remonte un peu aux années 60. Avant, jusqu'au 19e siècle et même encore un peu après, être un petit peu enrobé et manger gras, la bonne chair, c'était au contraire plutôt des signes de richesse et de beauté aussi. Hein, une femme bien en chair,
ça, il y a qu'à regarder
la peinture. La peinture de cette époque-là, et même aussi dans la langue française, toutes les expressions avec du gras sont positives. Hein. On met du beurre dans les épinards, on fait ses choux gras,
c'est vrai.
La crème de quelque chose. Même faire la grasse matinée.
C'est vrai, c'est que du positif.
Et grâce, la capitale du parfum, grâce, hein,
oui,
évidemment.
Absolument. Il y a un petit mot. Le gras peut être soyeux, moelleux, satiné, velouté, croustillant, fondant, onctueux, doux, crémeux, suave, que d'orgasme en bouche.
Oui.
Vous approuvez ce message, Ariane Massenet? Est-ce que vous approuvez, Ariane Massenet, tout ce qu'on vient de dire?
Ah, j'approuve à fond.
Alors vous, je crois que vous aimez manger les carcasses de canard gras, c'est ça, avec les doigts, c'est ça?
Les demoiselles.
Ça s'appelle comme ça, les demoiselles.
Les Landes. Écoutez, moi j'ai vécu 10 ans là-bas dans les Landes, donc les demoiselles, je connais bien.
C'est génial. D'abord, c'est extrêmement bon et c'est tout le cérémonial qui va avec. C'est-à-dire que c'est impossible de manger avec les doigts. Avec les doigts, on s'en met partout, on a de la graisse jusqu'aux oreilles.
On se lèche les doigts après.
Ah ouais. C'est très bon. C'est très
avec
bon.
Un bon verre de vin. Avec
oui,
ça.
Oh là oui, là. Oui,
vive
oui,
le gras.
Oui,
vive le gras. Mais 99 plus une bonne raison de manger du gras. C'est un petit ouvrage drôlissime, politiquement très incorrect et on adore
et
ça.
On a
publié chez Artemis. Et puis il y a votre blog, Blandine Vier, Greta Garbure.
On adore.
Greta Garbure.
Ah oui, voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous, Blandine Vier, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Après tout ce gras, on va se dégourdir un peu les jambes. On va partir à la découverte de trois nouvelles destinations.
Oh là là.
Avec Sophie Massieu, à tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été. Deux heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Qu'est-ce qu'on est bien ! Le club de l'été se poursuit sur Europe 1 et jusqu'à 11h. Et la personne qui est très bien, c'est Sophie Mounes. Vous n'avez jamais été aussi bien. Il est l'Armagnac. Sophie Massieu est aussi bien, mais elle le dit moins fort que Sophie
Mounes. Elle n'en pense pas, moi.
Nous sommes toujours
j'en
en compagnie
même bien plus.
De notre invitée, la journaliste et comédienne Ariane Massenet. Alors nous, on se télétransporte tous les jours grâce à Sophie Massieu. On va découvrir trois lieux sur une même thématique. Et aujourd'hui, on largue carrément les amarres. On part sur trois îles. Alors, signe particulier, les voitures y sont interdites.
Ah oui, c'est vous dire. Si on va bien respirer.
Quelle bonne idée.
Votre petit nez titillé par les odeurs d'embrun, de plantes, du sable dans les chaussures, les cheveux dans le vent, des chants d'oiseaux dans les oreilles.
Ah, ça y est, j'y suis complètement. Et donc, je pose le pied d'abord dans le Var, à Port-Cros.
C'est ça, à une quinzaine de kilomètres du continent, au large de Hyères. Là-bas, même les vélos sont interdits. Tout se fait à pied. L'île est petite, hein, elle mesure 7 km2. Elle est aussi escarpée et riche en falaises. Attention de ne pas tomber. On
oui,
sait
c'est
que, voilà. Donc vous pourrez crapahuter en allant sur Port-Cros. Donc prenez bien vos chaussures de randonnée avant d'y aller. Quant à ce que les hommes y ont bâti, évidemment, il y a des maisons de pêcheurs dont il reste quelques spécimens que l'on peut regarder. Une église et des forts, beaucoup de forts, parce que bien entendu, les rois de France successifs ont fait de cette île un outil de défense des côtes. Mais peut-être que vous préférez observer les oiseaux, alors là, faites-vous plaisir. De très nombreuses espèces viennent nicher dans cet endroit bien paisible, qui est aussi un parc naturel. Parc naturel donc pour préserver l'environnement ilien et ses alentours. Ce soir, si le temps le permet, mais je crois qu'il n'y a pas de raison, ailleurs, donc sur le continent, un documentaire de 52 minutes, signé Rémi Masson, sera diffusé en plein air pour savoir savoir ce qui se cache sous la surface. Le rendez-vous est à 21h30 à la Maison du Parc et c'est gratuit. Pour vous renseigner, je fais exprès de vous en mettre.
Ah oui, j'adore quand vous donnez
des
numéros de téléphone.
Il y a un numéro de téléphone, vous pouvez prendre un petit cahier, un petit crayon. Et vous appelez le 04 94 12 82 30.
Avec la voix sensuelle.
Encore une fois. 04 94 12 82 30.
Alors, nouvelle escale, cette fois, vous me faites très plaisir au sud de l'île de Ré.
Et oui, on va sur l'île d'Aix. D'Aix, pardonnez-moi, que l'on peut atteindre en partant soit de La Rochelle, de Rochefort ou même donc de Saint-Martin en Ré. Notamment, l'île, elle a une forme assez incroyable. Si elle fait 3 km de long, en fait, elle ne mesure que 600 mètres de large. Ça fait une espèce de grand comme ça, haricot. Alors, on la parcourt cette fois-ci à pied, à vélo ou en calèche. Moi, j'avais fait ça en calèche, c'est super. Cette île d'Aix, elle a été un lieu d'exil pour Napoléon Ier. C'est de là qu'il a abdiqué après la défaite de Waterloo et un musée retrace cette histoire, notamment bien sûr donc un musée sur l'île. Notez aussi que sur cette petite île de Charente-Maritime, on ne compte pas moins de 5 plages, donc à marée basse. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire?
De la pêche à pied. Oui, et au sud du Morbihan, Wedi qui nous tend les bras.
Absolument, cette fois-ci nous sommes à une heure en gros de bateau depuis de la presqu'île de Quiberon. Et là encore, nous arrivons dans un paradis sans voiture. On peut dormir sur place, au choix selon vos goûts, vos moyens, etc. Vous avez des hôtels et des campings qui le permettent, mais aussi pour les plus aventuriers ou pour les plus grégaires, 2 dortoirs de 15 personnes.
Ah oui.
Si je parle de ça, Si je parle de ça, c'est parce que c'est rigolo. Ils sont aménagés dans le fort qui est aujourd'hui la propriété du conservatoire d'Illittoral. Et donc voilà, c'est pas n'importe quel endroit. Quoi. Je vous parle pas d'un dortoir sous
tente. Classique. Bah oui, non, mais c'est bien. Moi, je prends le dortoir.
Ça m'étonne pas de vous. Ça donne un endroit très sympa. De ce fort, donc, partent des visites pour découvrir la faune, la flore ou aussi le patrimoine bâti de ce petit bout de terre perdu au milieu de l'océan. Eh oui, alors vous pouvez peut-être prévoir d'y passer ne serait-ce qu'un week-end pour vous remettre de la fin des vacances.
Oui, pourquoi pas. Et les îles sont aussi des endroits idéaux pour se baigner, évidemment, et l'application du jour nous permet de le vérifier.
C'est un plaisir, Loïc.
C'est un gros plouf.
Oui, Pavillon Bleu, c'est son nom. Elle est gratuite et elle recense les pas moins de 395 plages et 107 ports de plaisance qui ont reçu ce label officiel cette année. Un gage normalement, ce label de propreté, de respect de l'environnement. L'application, elle donne aussi, lorsque c'est possible, des informations sur les horaires de surveillance des baignades, parce que Lise, au cas où vous feriez des bêtises.
C'est mieux pour moi.
Sur l'accès aux personnes à mobilité réduite, sur la météo, etc., etc. Ces informations, elles sont disponibles de deux façons, soit avec la géolocalisation, soit si vous n'avez pas envie de qu'on sache où vous êtes, et ben vous avez une petite liste, tout simplement.
Magnifique, merci beaucoup Sophie Massieu. Ariane Massenet, on choisit quelle destination? On va dans le Morbihan, on va au sud de l'île de Ré, on va dans le Var.
Alors moi, je suis allée il y a longtemps, mais j'avais adoré l'île d'Aix. Moi aussi.
Ouais, c'est chouette l'île
d'Aix. Vraiment, c'est très chouette. Et puis surtout, tous les gens qui partent à 5 heures l'après-midi, parce que c'est le dernier bateau, et vous restez seul sur l'île. Vous avez l'impression qu'elle vous appartient, et ça, j'adore ça.
Ouais, c'est vrai, il faut rester. C'est encore mieux.
Ah bah oui, absolument.
Vous retrouvez évidemment toutes les références des contenus dont on vous parle dans le Club de l'été sur le site Europe 1. Et s'il vous manque une information, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez au de Sophie ou à moi sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Dans quelques minutes, avec Sophie Moons, on continue notre semaine, notre saga consacrée aux pâtes.
Mais quel suspense.
Des pâtes au gras.
Des pâtes au gras.
On va faire des pâtes au beurre. Et avant de ça, un peu de légèreté, on écoute Jean-Jacques Goldman avec Envole-moi sur Europe 1.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Minuit se lève au détour. Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures. La zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici. Entre l'ignorance et la violence et l'ennui, je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, envole-moi, envole-moi.
Ici y a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici, entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te le jure, à coups de livre je franchirai tous ces murs.
C'était Jean-Jacques Goldman sur Europe 1, Envole-moi, et on se retrouve dans un instant pour la suite du Club de l'été.
9h, 11h,
le Club de l'été sur Europe 1.
Alors, j'ai jamais pris autant de plaisir.
C'est bien gentil, mais avec quoi ?
Un pénis, c'est incroyable.
Bah, j'en pense que je suis content pour vous.
C'est bien, hein, ça fait du bien.
Lise Pressac.
J'embrasse mes parents qui nous écoutent.
Ah bon ?
C'est chaud, cette émission.
Oui, c'est un montage. Merci Loïc pour celui-ci.
Mais c'est de la manipulation parce que c'est sorti du contexte.
Exactement. C'était dans la chronique d'Elsa Lévy hier, voilà, l'histoire du pénis. Bref, le Club de l'été se poursuit avec notre invitée, la journaliste et comédienne Ariane Massenet. Il y a des messages pour vous, Ariane. Il y a notamment Charlotte qui nous écrit sur Europe, cette famille, c'était top, mais encore plus les pipelettes. Qu'est-ce que c'était drôle. Et Madame Massenet, oh là là, oui. Votre pièce est super drôle et très émouvante à voir absolument entre amis. Voilà, c'était Charlotte François qui vous envoie ce petit message.
Ah bah super,
oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des pipelettes.
Non,
aussi sur
les
cette
pipelettes, c'était très amusant, les pipelettes. C'était très amusant. On passait notre temps à lire des journaux People. C'était le tout début de la sortie des journaux People. Et on commentait ces journaux avec des chroniqueuses qui étaient très amusantes.
Oui, ça, c'était une belle émission aussi. Ariane, est-ce que vous cuisinez ? Parce que vous aimez manger. Est-ce que vous cuisinez ?
En général, les gens qui aiment manger aiment cuisiner. C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous vous préparez ? C'est quoi votre spécialité ? C'est le truc qui marche à tous les coups si on vient dîner chez vous ?
Ah, le truc, le ceviche. En ce moment, je suis dans une
c'est
phase.
C'est pas grave, ça.
C'est une phase.
Non, c'est pas grave, parce que justement, c'est après l'accumulation du gras, on commence à penser à comment faire la détox.
C'est après les demoiselles.
Ouais, exactement.
Alors, avec vous, Sophie, on cuisine pas du ceviche aujourd'hui. On parle de pasta toute la semaine.
Oui, gratin de cannelloni, sauce tomate et gnocchi, avec des tortellini, à la viande, oui, oui, oui. Quand c'est bien chaud comme c'est chouette.
Oui, 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 oui. C'est bon, les oreilles ont mal. Aïe, aïe.
Elle est bien, cette chanson.
C'est énorme. Épisode 2 de notre saga pastafarienne. Vous savez que je suis pastafariste, moi.
Tu es pastafariste.
Oui.
D'accord.
J'appartiens à la grande église des pastafariens.
Mais c'est pas ceux qui se mettent un truc sur la tête, là.
Et figurez-vous qu'en Belgique, dans mon émission gourmande, il nous arrive de présenter l'émission avec une passoire à pâtes sur la tête.
Vous êtes vraiment extraordinaire,
les
Belges.
Ça va mieux, les Belges.
Ça va beaucoup mieux, j'ai les Belges. Qu'est-ce qu'on vous aime.
Bon, on va parler de pâtes, qui est une véritable religion, ça se respecte. Hier, j'ai pas eu beaucoup de temps pour vous le rappeler, mais quand vous achetez les pâtes sèches, vérifiez bien qu'elles soient étirées au bronze. C'est noté sur l'étiquette, ça donne toute la texture et la granulosité aux pâtes. C'est très, très important. Ok ?
Oui, voilà, Sophie.
Comme ça, je clôture cette parenthèse.
Vous faites très, très bien.
Aujourd'hui, on va faire les pâtes aux œufs, les pâtes fraîches. Les rayons commencent beaucoup à se développer aussi en France en la matière. Mais franchement, fait maison, c'est encore mieux et c'est simplissime.
C'est vrai.
À l'instar des confitures, 4 ingrédients.
Ah, ok.
Prenez note,
il vous faut
de la farine de blé tendre, autrement dit de la farine pâtissière boulangère. C'est, je pense, chez vous, on dit la T55, c'est ça ?
Ah, je ne sais pas comment
45
on l'appelle.
Pour la farine.
Voilà. Il faut qu'elle soit fluide
ou... C'est parce qu'on a d'autres indications en Belgique, mais chez vous, c'est soit 50, soit 55. Ça fera parfaitement
l'affaire. De la fluide ou de la texture normale ?
C'est la farine boulangère. Donc,
très
voilà.
Bien,
ok. Donc, ingrédient 1, de la farine. Des œufs.
Oui.
Pour 100 g de farine, un œuf.
Ok.
Jusque-là, ça va ?
Jusque-là, tout va bien.
De l'huile d'olive.
et du sel. Marianne, trop facile.
Trop facile. Hein, facile. Bon. Trop
alors,
facile.
On va
c'est
prendre
là que ça se complique.
De la farine de blé tendre. Vous pouvez mettre un petit peu de semoule de blé dur, ça va donner un petit peu plus de texture à la pâte, mais ce n'est pas obligatoire. On va faire au plus simple pour cette première fois. Et puis, vous prenez donc, allez, pour 4 personnes, vous allez prendre 400 g ou 500 g de farine. Par 100 g de farine,
un œuf.
Donc vous faites une petite pyramide, un petit trou, vous mettez vos œufs dedans, un petit peu d'huile d'olive et du sel. Et vous allez pétrir. Voilà, on écoute Europe 1.
Oui, c'est très important dans la préparation, on le dit à chaque fois.
On pétrit à la main, on n'a pas besoin de robot. Si vous en avez un, c'est très bien. Mais la main, ça va très très bien aussi. On pétrit, vous faites un petit pâton, hein, une fois que c'est bien bien...
Un petit pâton.
Voilà, un petit pâton. Voilà. Vous le mettez dans un film plastique et vous laissez reposer une heure ou deux. Vous écoutez Anne Roumanoff après et tout. Relax.
D'accord, c'est très important dans la recette.
Hein. Est-ce que c'est dur là pour l'instant ?
Pour l'instant, c'est très facile.
Bon. On rappelle, farine, œufs, huile d'olive, sel. Ensuite, quand votre pâton a bien reposé, vous allez le travailler. Alors, vous prenez le rouleau à tarte, ça marche très très bien. Hein. Sinon, vous avez effectivement des machines avec les petits rouleaux mécaniques, ça marche très bien. C'est un petit investissement, mais si vous y mettez, c'est vraiment largement récompensé. Vous prenez votre rouleau, vous allez étendre votre pâte.
Mm-hmm. Jusqu'ici, tout va bien, trop
facile.
Vous la
faites bien fine, mais pas trop non plus. Il faut quand même qu'il y ait un peu de texture.
C'est là où ça commence.
Vous imaginez que vous ayez une tagliatelle en bouche. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine, il ne faut pas qu'elle se délite. Donc, il doit y avoir un peu de mâche. Ensuite, vous prenez un couteau. Je fais au plus simple, hein. Et vous allez détailler ce morceau de pâte bien étalé en petites
lamelles. En fait, oui,
et vous faites des tagliatelles. Pour un premier jet, on fait les tagliatelles, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, vous faites plus ou moins épais selon que vous aimez. Ensuite, vous faites des petits pâtons sur votre plan de travail, vous farinez légèrement avant de les mettre en cuisson.
Très bien.
Et tout simple. Sinon, vous pouvez investir dans un petit laminoir. C'est un appareil qui va vous permettre de façonner. Sinon, il existe des petits couteaux spécifiques pour tailler vos pâtes et vous pouvez les faire de différentes formes, en petites ravioles que vous farcissez avec un peu de fromage, de chèvre, des herbes aromatiques, etc. Donc une fois que vous avez vos tagliatelles, faites chauffer dans une poêle du beurre, bon beurre au lait cru, vous mettez de la sauge dedans.
D'accord.
Pas compliqué, non. Vous cuisez vos pâtes, c'est très rapide, la cuisson des pâtes fraîches. Vous les prenez. Vous ne les essorez pas, vous prenez, vous savez, une
un écumoire.
Mais du coup, on ne les cuit pas. Il n'y a pas d'eau dans l'histoire ?
Attendez, Sophie Mathieu.
Si, vous cuisez vos pâtes dans de l'eau.
Ah oui, d'accord.
Mais quand elles sont cuites et c'est très rapide, vous allez les enlever de l'eau et directement les plonger dans votre beurre avec la sauge et vous terminez la cuisson dans cette poêle.
D'accord.
Basta, la vie est belle.
Oh, ça doit être bon, ça. Et quand vous dites que c'est rapide, la cuisson des pâtes fraîches,
c'est 3 minutes.
Ah oui, c'est vraiment très rapide.
3 minutes à l'eau.
3 minutes à l'eau.
Oui, c'est ça, mais c'est très rapide. Mais vous les goûtez, c'est vraiment le truc.
Et alors, vous faites quoi comme forme de pâte? Parce que, la tagliatelle, c'est facile. Vous vous lancez dans quoi
Mais moi, je fais les spaghettis, mais j'ai la machine ad hoc, évidemment. Vous pouvez faire des ravioles. Vous avez des petits couteaux en vente, les petites roulettes. Vous les façonnez en petits carrés. Vous les remplissez de farce. Vous mettez un autre petit carré par-dessus avec vos petits poupous. On pousse.
Non, mais quand est-ce qu'on vient les manger chez vous?
Il faut surtout pas croire que c'est compliqué. Et en plus, c'est du temps, mais vraiment agréable. On est bien, on est détendu.
Parce qu'on écoute Europe 1, mais
c'est quand même c'est vrai. Non, puis mettre la main dans la farine et.
Moi, j'adore faire ça. C'est très économique.
C'est vrai.
Très économique.
Bon, vous êtes convaincu, Ariane Massenet?
Ah, mais je suis hyper convaincu, je vais faire ça tout de suite.
Et domani facciamo la carbonara.
Ah, si.
La vraie.
Oui, sans crème. Bah, sans crème.
Sinon, je frappe.
Ah, bah non, mais vous aurez raison. Et je frapperai avec vous, Sophie Mounts. Si vous testez les recettes de Sophie Mounts, vous nous envoyez évidemment vos créations sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
J'ai hâte de voir la tête des pâtes.
Pour l'instant, les personnes n'osent pas trop, mais allez-y, parce que même si c'est pas forcément beau, ça peut être bon aussi.
On en envoie plein sur les réseaux sociaux.
Faire passer. Et si vous avez des questions techniques pour Sophie Mounts aussi, vous n'hésitez pas non plus, elle se fera un plaisir d'y répondre. Ariane Massenet, merci d'avoir passé ces deux heures avec nous.
Bah, merci à vous surtout.
Je rappelle que vous êtes donc à l'affiche de Comme des sœurs, une pièce écrite et mise en scène par votre sœur Béatrice Massenet avec Alexandra Simon et Marie Parouti. Pièce qui reprend à partir du 12 septembre jusqu'au 31 décembre au théâtre La Scène Parisienne dans le 9e arrondissement de Paris. Plus si affinité, pourquoi pas, on peut pousser les dates.
Absolument, on peut pousser les dates.
Et une tournée.
Et une tournée et une adaptation. On a donc travaillé une adaptation télé de la pièce.
Génial. Voilà. Donc ce sera aussi sur écran. Mais magnifique cette aventure. On sent que vous prenez un plaisir extraordinaire à jouer en
Innommable.
Tout cas. Innommable. Merci beaucoup à vous d'avoir passé ces deux heures avec nous. Sophie Mathieu, Sophie Mounts, nous on se retrouve demain avec notre invité l'humoriste Christelle Chollet. Nous irons en Alsace cette fois. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.